France Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans ma bibliothèque pour le troisième épisode de notre série Confiné mais relax, une heure avec un grand classique de la bibliophilie en herbe. Aujourd'hui, petit côté amusant de la vie musicale d'Arthur Dandelot.
Thank you.
Le scherzo du concerto opus 59 de Moritz Moszkowski, c'était Joseph Moog au piano avec Nicholas Milton à la baguette. Qui était cet Arthur Dandelot? Eh bien, il naquit en 1864 à Paris et c'était d'abord un critique musical. Il fonda une revue en 1889, Le Monde Musical, revue qui dura pendant un bon demi-siècle, à une époque où, il faut le dire, ce genre d'objet mi-littéraire, mi-musical était vraiment prisé. Petite précision, il créa cela avec son beau-frère, Auguste Mangeot, qui est célèbre pour d'autres raisons, c'est qu'il fonda lui-même, Auguste Mangeot, quelques années après, l'École normale de musique de Paris avec Alfred Cortot. Mais Arthur Dandelot n'était pas seulement critique musical, il fonda aussi un bureau de concert, c'est-à-dire qu'il était agent artistique, l'un des premiers dans le genre. Il avait dans son portefeuille quelques-uns des plus grands artistes de son temps, Camille Saint-Saëns, Eugène Ysaÿe, Pierre Monteux côté direction, Jacques Thibault côté violon et puis même Serge Prokofiev pendant un temps. Forte activité, bien sûr, mais il trouva quand même le temps d'écrire quelques biographies de Charles Gounod ou de Francis Planté. Et puis surtout, en 1929, ces petits côtés amusants de la vie musicale qui sont un recueil d'anecdotes, de souvenirs, de bons mots glanés au gré de ses rencontres avec les artistes. Je vais vous en proposer quelques-uns dans un instant qui concerneront celui qu'on va entendre là, enfin le compositeur, Camille Saint-Saëns. Thank you. Un extrait de la suite opus 16 de Camille Saint-Saëns, interprété par Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano. Dans ses petits côtés amusants de la vie musicale, Arthur Dandelou nous rapporte pas mal d'anecdotes concernant Camille Saint-Saëns ou de mots à son sujet. Exemple celui-ci que l'on doit, paraît-il, à Charles Gounod. Saint-Saëns avait 5 ans qu'il manquait déjà d'inexpérience. Histoire de dire que le personnage était pour tous ses contemporains un vrai professionnel, au sens positif comme négatif éventuellement. Mais il était aussi assez caustique parfois, Saint-Saëns, avec ses musiciens. Par exemple, Dandelou nous raconte une anecdote qui est arrivée à l'occasion d'une répétition avec Charles Lamoureux, le célèbre chef d'orchestre. Celui-ci faisait répéter une œuvre de Saint-Saëns avec une précision méticuleuse comme d'habitude. Je cite Dandelou, il réglait chaque coup d'archet. N'est-ce pas mieux ainsi ? Dit-il au maître, et celui-ci de répondre avec son petit ton ironique, « très bien, cher ami, mais j'aime mieux ce que j'ai écrit. » Enfin, Saint-Saëns pouvait se permettre ce genre de trait, il était à la fois très célèbre à l'époque et très sollicité, au point que plein de compositeurs lui envoyaient des partitions. Un jour, l'un d'entre eux, assez vaniteux, semble-t-il, lui envoie un manuscrit, et après examen, Saint-Saëns lui répondit cette petite phrase, « Cher ami, quand j'étais jeune, j'ai fait aussi beaucoup d'assez mauvaise musique. Mais il ne me serait jamais venu à l'idée d'obliger un vieux bonhomme comme je suis maintenant à en supporter les conséquences. » La célèbre tarentelle de Rossini, La Danza, chantée par Cecilia Bartoli avec au piano, rien moins que James Levine. Rossini, qui était d'ailleurs jamais à une vacherie près concernant ses contemporains, sur un mode gentil, mais tout de même, il disait à propos d'Hector Berlioz, qui était célèbre pour être autodidacte, « Quel dommage que ce garçon-là ne sache pas la musique, il en ferait de bien mauvaise. »
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
À propos de Berlioz, une histoire rapportée toujours par Arthur Dandelot. Berlioz venait de diriger en Allemagne une de ses principales œuvres à grand orchestre. Le concert terminé, il rencontre le prince de Metternich, dont l'ignorance en musique était proverbiale. Celui-ci l'aborde et lui dit avec un aimable sourire « C'est vous, monsieur, qui faites des morceaux pour 500 musiciens ?»« Oh, monseigneur, » répond Berlioz avec le plus grand sérieux, « ça ne m'arrive pas tous les jours, vous savez. Le plus souvent, je n'en fais que pour 450. » Dor, ami, une mélodie de Jules Massenet, chantée ici par Michel Lozier, avec au piano Olivier Godin. Je vous rappelle que nous passons une petite heure avec Arthur Dandelot et ses petits côtés amusants de la vie musicale, livre paru en 1929, qui nous raconte plein d'anecdotes sur le monde musical du début du XXe siècle. Bah tiens, j'ouvre là à la page 142 et je tombe justement sur Jules Massenet, dont il faut rappeler deux choses. La première, c'est qu'il avait été, durant toute son existence, un grand amateur de femmes. La seconde, c'est qu'il était réputé pour être aussi un bourreau de travail. Je cite Dandelot. « C'était un an avant sa mort. Il paraissait avoir vieilli et s'être résigné à n'être plus éternellement jeune. » Un de ses collègues le rencontre et le regardant en face lui demande « Cher maître, est-ce que vous êtes toujours aussi matinal? À quelle heure vous levez-vous » « Toujours 5 heures. »« Oh, c'est stupéfiant. Mais comment faites-vous ? » « Oh, c'est bien simple, » répond Massenet. « Je me couche avec le soleil. D'ailleurs, avec qui voulez-vous que je me couche ?»
Oh!
Lorsque le temps d'amour a fui, l'air de Dulciné, extrait de Don Quichotte de Jules Massenet, Magdalena Kojena et Marc Minkowski. Arthur Dandelot, dans ses petits côtés amusants de la vie musicale, consacre quelques lignes à Hans von Bülow, le célèbre chef d'orchestre dont on se souvient qu'il avait été marié d'abord avec Cosima, originellement fille de Franz Liszt, Cosima qu'il avait quittée au lendemain de la création de Tristan et Isolde pour suivre Richard Wagner, dont elle devint la compagne légitime par la suite. Dandelot nous raconte cette anecdote. Peu de temps après, Hans von Bülow avait fait jouer une symphonie de Johannes Brahms qui avait obtenu un gros succès. Le célèbre chef, en sortant de scène, se tourne vers sa fille et lui dit « Ben ça aussi c'est pas mal, va dire à ta mère qu'elle se dépêche d'épouser Brahms ». Hans von Bülow avait en effet de l'humour, on lui doit cette formule assez célèbre « Un bon chef d'orchestre a sa partition dans la tête, un mauvais chef sa tête dans la partition ». Et puis cette dernière définition de la fugue instrumentale dont on dit parfois que c'est un genre un peu austère. Fugue, morceau de musique au cours duquel les exécutants partent les uns après les autres et les auditeurs tous en même temps.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, la fugue en sol mineur, BWV 578, orchestrée par Léopold Stokowski, dirigée ici par José Cerebrié à la tête de l'orchestre symphonique de Bournemouth. Il y a aussi dans ces petits côtés amusants de la vie musicale d'Arthur Dandelot ce qu'on pourrait appeler des naïvetés d'auditeur. Ainsi, quelqu'un à qui on avait demandé un jour combien a-t-il de symphonies de Beethoven avait répondu 3. Quels sont les 3? Eh bien, la pastorale, la do mineur et la 9e. En fait, c'est une réponse possible. Autre réponse possible, celle que fit Ignace Paderewski, le célèbre pianiste, à un auditeur qui était venu le voir à la sortie d'un récital où Paderewski avait joué du Jean-Sébastien Bach. On était là au début des années 1920. Oh, il a beaucoup de talent, ce monsieur Bach. Est-ce qu'il compose encore? Ce à quoi Paderewski répondit tout simplement, non, monsieur, il y a plus de 2 siècles qu'il décompose.
Thank you.
Thomas Zettmeyer dans ce premier mouvement de la sonate pour violon en sol mineur, l'opus 27 d'Eugène Ysaÿe, dont il est abondamment question aussi dans ces petits côtés amusants de la vie musicale d'Arthur Dandelot dont nous parlons aujourd'hui.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'Arthur Dandelot et je suppose que beaucoup d'entre vous, parmi ceux en particulier qui auraient étudié au moins un peu la musique, doivent avoir quelque chose en tête qui leur revient. Dandelot, Dandelot, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, celui que vous connaissez peut-être, c'était Georges Dandelot, qui était le fils d'Arthur. Georges qui est né en 1895, famille de musiciens, donc il rentre au conservatoire de Paris, il fait tout un tas de classes chez Louis Diemer, chez Charles-Marie Vidor, Vincent d'Indy, Albert Roussel, Paul Dukas. Il ne commence pas vraiment de vraie carrière de musicien, mais en revanche, il rentre très rapidement comme professeur d'harmonie à l'École normale de musique de Paris, et puis il arrivera au Conservatoire de Paris en 1942, où il aura entre autres pour élèves Paul Méphano ou André Boukourechiev. Et pourquoi on connaît si bien Georges Dandelot? Eh bien, c'est qu'il est l'auteur d'une foultitude de manuels pédagogiques autour du solfège qu'on a les uns et les autres subis pendant nos années de formation. Souvenez-vous, il y avait les leçons de solfège de Georges Dandelot, la redoutable étude du rythme en 10 ou 12 volumes, volume de Georges Dandelot, le manuel pratique pour l'étude des clés, les 100 dictées musicales de Georges Dandelot, enfin des trucs qui nous ont donné des cauchemars pendant des années et des années. Ben bon, bref, on va pas en vouloir non plus à Arthur des turpitudes pédagogiques de son jeton.
Thank you.
Le vivace du concerto opus 130 de Moritz Moszkowski, c'était Tasmin Little en soliste au violon avec l'orchestre symphonique de la BBC d'Écosse mené par Martin Brabins. Moszkowski, il apparaît très souvent dans ses petits côtés amusants d'Arthur dans l'eau parce que c'était vraiment un amateur de grandes boutades. On lui doit celle-ci par exemple. Heureusement qu'il y a des professeurs de piano, sinon les élèves feraient trop de progrès. Un jour, on lui fait rencontrer une jeune pianiste qui joue pour lui. Il dit, en sortant de cette audition un peu pénible, semble-t-il, « Oh, elle n'est pas sans manquer de talent !» Il avait appris le français sur le tard, Moszkowski, mais il le maîtrisait très bien et pouvait faire des petits jeux de mots avec. Il disait, par exemple, à propos d'un peintre sans talent, « Il persiste à peindre croûte que croûte. » Et puis, quand on lui causait de Richard Strauss, il répondait, « Comme Richard, je préfère Wagner. Comme Strauss, j'aime autant Johann. » L'année dernière de Moszkowski, un jour il est à Vienne en visite avec son ami le compositeur Alexandre Glazounov. Il passe devant la maison de Franz Schubert sur laquelle est apposée une plaque commémorative. Glazounov demande « Crois-tu que lorsque je mourrai, on mettra aussi une plaque sur ma maison ?»« Oh oui, certainement. Et quelle inscription on y mettra ?»« Oh, maison à louer. » Guitare de l'impayable Moritz Moszkowski avec Yehudi Menuhin au violon, Arthur Balsam au piano. Allez, deux derniers pour la route, si j'ose dire. Le premier se passe à l'Opéra de Paris et ça concerne Charles Gounod. Il y a une très médiocre représentation du Faust. Et Gounod est tellement furax, il se retourne vers le directeur de l'Opéra et lui dit « Vous lâchez vos artistes à travers ma partition comme des veaux à travers un potager. » Il faut dire que c'est le même Gounod qui écrivit « Il suffit d'un interprète pour calomnier un chef-d'œuvre. »
Si tu dors, jeune fille, debout, debout, voici le soleil. Chasse de tes yeux l'adolant sommeil, c'est l'heure du réveil. Chasse de tes yeux l'adolant sommeil, c'est l'heure du réveil. Suis-moi, vive et gentille, pieds nus. Les gazons sont verts, les ruisseaux jaseurs par les bois déserts promènent leurs flots clairs. Les ruisseaux jaseurs par les bois déserts promènent leurs flots clairs. Viens, viens, les gazons sont verts. Viens, viens, les gazons sont verts. Viens, viens. Les gazons sont verts. Dans Venise, la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. S'efface, couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, d'un nuage étoilé, d'ami voilé. Tout se tait, fort les gardes, oh, qui veillent au créneau des arsenaux. Maintenant plus d'une attente au clair de lune, quelque jeune muguet l'oreille au guet. Sous la brise amoureuse, la vanina rêveuse, la vanina rêveuse, dans son berceau flottant, passant, chantant. Tandis que pour la fête, Narcisse à qui s'apprête, mais devant son miroir, la vieille horloge au palais du vieux doge lui conter de ses nuits les longs ennuis. Sur sa mère nonchalante, Venise l'indolente, Venise l'indolente, ne compte ni ses jours, ni
Venise de Charles Gounod, c'était Gérard Souzet avec à ses côtés au piano Jacqueline Bonneau. Nous évoquions aujourd'hui les petits côtés amusants de la vie musicale d'Arthur Dandelot, paru en 1929 aux éditions Dandelot elle-même. La photographie de l'ouvrage, elle est à retrouver sur le site internet de l'émission que vous pouvez aller consulter. Je vous signale que Dandelot écrivit même « Autres petits côtés amusants de la vie musicale » pour répondre au succès du premier volume. Si ça vous a plu, eh bien tout cela se trouve assez facilement sur des sites d'occasion aujourd'hui à partir de 10 ou 15 euros. Merci à Flora Sternadel et à Max James. Je vous retrouve demain, beaucoup plus près de nous. Nous irons visiter le bar d'Adrac de Gérard Genette. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Marcel qui y verrait.
À réécouter sur francemusique.fr.